Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver nos invités pour parler des viols des jeunes filles au Tchad, nous vous proposons d'abord cette rubrique décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Abdoulaye Mohamadou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire exécutif du CILS, c'est le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, dont le siège est à Ouagadougou, Burkina Faso. Ce 17 juin est journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, le thème est « Restauration, terre, reprise ». Il s'agit de transformer des terres dégradées en terres saines, réutilisables. Pourquoi cette démarche est-elle cruciale?
Cette démarche est cruciale. La restauration des terres était toujours un enjeu important, surtout pour les pays du Sahel. Mais mieux encore avec la crise sanitaire que nous avons connue, il était apparu plus urgent encore d'investir dans la restauration de la terre parce que les impacts attendus peuvent contribuer à une reprise des économies de la région. L'avantage, c'est de rendre d'abord des terres infertiles, des terres fertiles. Donc ça permet aux populations de restaurer le capital productif, de pouvoir faire de l'agriculture, de l'élevage. Ça permet aussi de reverdir les terroirs. Et qui dit reverdir les terroirs, avoir plus d'arbres, avoir plus de produits ligneux pour la consommation des ménages, mais également, au-delà, il y a deux dimensions dedans. Il y a une dimension écologique, parce qu'une institution comme le CILS s'investit également pour un nouvel équilibre écologique au Sahel.
Quand on parle de terres dégradées dans le Sahel, qui est une zone aride, de quelle surface parle-t-on?
Alors, il faut savoir que le Sahel, c'est déjà une zone sahélo-saharienne. Donc, une grande partie des pays comme le Niger, le Mali, le Tchad sont occupés déjà par le désert. Donc, ça, c'est des terres déjà qui sont impropres à l'agriculture. Donc, souvent, c'est le tiers seulement des pays de ces pays comme de la bande sahélo-saharienne qui sont propices à l'agriculture. Par contre, dans les pays côtiers, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation surtout liée à la surproduction, mais de plus en plus également ces dernières années par les régions, l'érosion hydrique et puis des sécheresses. On estime à l'échelle mondiale qu'il y a 45% des terres dégradées. Je pourrais dire que si on rapporte ça à la zone sahélienne, c'est certainement la zone la plus dégradée, elle va au-delà de 45%.
La faible quantité des terres cultivables dans le Sahel impose réparation, cette restauration qui est aujourd'hui souhaitée?
Absolument, c'est une obligation. C'est une obligation pour les États sahéliens. D'abord parce que on considère qu'il y a un potentiel important pour produire sur ces terres quand elles sont rendues aptes à l'agriculture et à l'élevage, mais aussi parce qu'on considère aujourd'hui que le développement des territoires constitue une des voies par lesquelles on peut résorber le problème de chômage des jeunes. C'est le moyen également de restaurer la végétation. Vous savez que quand il n'y a pas de végétation, la vie devient plus difficile, surtout en lien avec les changements climatiques.
Et quelles sont les pratiques courantes qui contribuent à accélérer la désertification et la sécheresse en Afrique et particulièrement dans le Sahel?
C'est d'abord la forte pression sur les terres qu'on dégrade. C'est des monocultures sur plusieurs années. Évidemment, ça dégrade les sols. C'est aussi la coupe du bois.
La déforestation.
Qui dégrade aussi parce que ça provoque la déforestation dans certaines régions. Il y a aussi l'effet de brousse.
Les techniques culturelles avec l'agriculture surbrûlue.
Exactement. Donc, c'est ça qui conduit à l'appauvrissement des sols, à leur faible productivité et à la baisse de la production agricole.
Est-ce que la mécanisation des cultures protège mieux les sols?
La mécanisation n'est pas toujours conseillée dans certaines régions parce que c'est des sols, disons, très légers. Et donc, quelque part, la mécanisation n'est même pas utile dans ces régions parce qu'elle contribue même à la dégradation des sols.
L'objectif de cette journée est d'alerter et d'attirer l'attention sur les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Accordons-nous, selon vous, suffisamment d'attention à cette problématique?
Il y a eu, depuis les années 90, une forte mobilisation de la communauté internationale. Il y a eu les conventions sur la dégradation des sols, la biodiversité, sur le changement climatique. Vous avez au niveau de l'Union africaine l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il y a certainement des résultats, mais le défi, c'est surtout la mise à l'échelle des bonnes pratiques.
Docteur Abdoulaye Mouhamadou, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Secrétaire exécutif du CILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, à Ouagadougou.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Explique la récurrence de viols d'adolescentes par des enfants des pontes du régime au Tchad. Nous en débattons ce soir dans votre émission avec trois invités. Céline Narmadi, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad. Bonjour Madame Narmadi.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de N'Djamena, merci d'être avec nous. Madame Elotine Somti, bonsoir.
Bonsoir.
Militante associative défenseuse des droits des femmes, de la démocratie, de la liberté d'expression et de la justice ici à Paris. Et en ligne de Paris également, Mohamed Nezoum Zan, qui est enseignant-chercheur, président de l'Amicale panafricaine ici donc à Paris. Merci d'être avec nous. Et je voudrais commencer avec vous, Madame Narmadi. Fin mai, donc, on a à nouveau parlé de viols de jeunes filles mineures dans votre pays. Il s'agissait d'une adolescente d'une quinzaine d'années. Elle aurait été violée par des enfants de haut gradé de l'armée. Que sait-on de cette affaire à ce stade?
Bon, merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur les cas de viol des mineurs, viol des jeunes filles qui se perpétuent ces dernières années. Tout ce qui encourage ces viols dans ce pays, c'est l'impunité d'abord, et que ces enfants dignitaires se considèrent comme des intouchables. Donc, ils peuvent tuer, ils peuvent faire des autres ce qu'ils veulent. Et eux, ils sont les gens qu'on est considérés comme ils sont au-dessus de la loi. Aucune loi au Tchad ne peut sanctionner un groupe de personnes du clan Bébé et ses acolytes. Et ça persiste, ça signe. Parce qu'avec la gente, ça va de mal en pire parce qu'on utilise aussi le viol comme une arme de guerre. Une arme de guerre pour humilier les communautés, pour le déstabiliser, on passe par le viol. Donc, c'est toujours le même groupe ethnique là.
Madame.
Le même groupe ethnique qui font passer cette manière de faire pour humilier les autres.
Quand vous entendez, madame, l'impression qu'on peut avoir, c'est que les coupables ou les suspects appartiennent à une même communauté et les victimes aussi.
Non, ils peuvent choisir parce que même les leaders, par exemple, je parle de mon témoignage à moi en tant que femme leader de l'organisation des femmes. Quand mes enfants ont obtenu leur baccalauréat en 2015, mes enfants ne pouvaient pas fréquenter au Tchad parce qu'elles sont persécutées à l'université de N'Djamena. Et c'est des filles. et comment faire pour les mettre à l'abri parce qu'elles, elles n'ont pas choisi.
Quand vous dites persécutées, précisément, c'est donc, quoi, c'est madame? Elles sont harcelées
les
par leurs camarades?
Les gens viennent même à une fille là chercher qui est la fille de madame Céline, par exemple. C'est les questions qui se posent à haute voix.
Parce que vous êtes donc, activiste de la société civile ou c'est en raison de votre appartenance ethnique?
Non, non, en tant qu'acteur de la société civile, donc comment faire pour mettre les filles à l'abri pour qu'elles puissent poursuivre les études comme tout autre enfant tchadien? C'est comme ça qu'on les a envoyées en dehors du Tchad pour qu'elles puissent poursuivre leurs études. Quand ils avaient constaté que mes filles ne sont plus à Niamena, il faut passer à la vitesse supérieure qui m'a conduit en prison. Donc la lutte contre le viol a sa raison d'être dans un pays dictatorial comme la nôtre pour intimider et menacer ceux qui vont prétendre avoir des voix discordantes sur les droits de la femme de se taire.
Merci. Merci, et Madame Narmadi.
Madame
Narmadi, on va faire un tour de table. On écoute les uns et les autres. Rassurez-vous, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Madame Somti, ce que Madame Narmadi vient d'affirmer est assez grave. Le viol comme étant une arme de guerre, une technique d'intimidation. Est-ce que c'est également votre sentiment?
Eh bien, écoutez, personnellement, je trouve que c'est... c'est un faux problème. C'est parce que justement les gens disent que c'est une arme de guerre que les auteurs de viol veulent l'utiliser comme une arme de guerre. L'acte sexuel, c'est un acte qui devrait être consentant entre deux adultes. Quand on va violer une mineure de 15 ans et de surcroît qu'on soit à 3 et qu'on sait que derrière il n'y aura pas de sanction parce qu'on est enfant de haut gradé. Dire que le viol, c'est une arme de guerre, personnellement, je ne partage pas tellement l'avis parce que justement, à force de dire que c'est une arme de guerre, eh ben, le subconscient des gens finit par croire que violer la femme, hein, c'est dominer la femme, c'est atteindre psychologiquement, physiquement un groupe. Non, il faudrait qu'on arrive à dépasser cela. Je pense que le vrai problème qui s'oppose au Tchad actuellement, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir estiment qu'ils sont au-dessus de la justice, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être punis, sans être sanctionnés. Et cela, ça fait des années, effectivement, que ça dure. Parce que si on prend déjà le cas de la petite Zahoura qui avait été violée il y a quelques années...
C'était en 2016.
Voilà, 2016, effectivement, jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'a pas été jugée et tranchée. Et dernièrement, on a même entendu dire, c'est des rumeurs, on n'a pas encore la preuve, que l'un des violeurs est en ce moment à Paris et que, voilà, s'il avait violé...
Pardonnez-moi, Madame Somti, juste signaler que pour le cas de Zahoura, il y a eu effectivement un procès. Au moins 6 personnes ont été condamnées à 10 ans de travaux forcés. Il y a eu quand même un procès, il y a eu une condamnation, sauf si c'est moi qui n'ai pas la bonne information.
Oui,
non, je dis parce que vous avez affirmé qu'il n'y a pas eu de procès.
En fait, il y a eu un procès, mais d'après vous, 6 ans de travaux forcés, est-ce que pour vous, c'est une sanction suffisante pour une jeune fille mineure qui a été violée par un groupe d'individus?
Je n'ai pas de commentaire, madame. Je n'ai pas d'avis. Merci, voilà. Madame Somti.
Nous pensons que c'est de la mascarade. Parce que si vous regardez bien la loi de 3 août 2018 qui a été...
Madame Somti, permettez-moi de vous interrompre. Vous direz tout à l'heure si pour vous la loi est suffisamment ou non, est suffisamment répressive ou non pour dissuader les auteurs. Je voudrais qu'on fasse d'abord un premier tour de table et qu'on écoute également M. Mohamed Nezoum Zan. M. Zan, quel est votre avis sur ce nouveau cas qui a été évoqué le mois dernier, nouveau cas de viol attribué au fils des hauts gradés de l'armée?
Alors, ce qu'il faut dire en ce qui concerne, n'est-ce pas, la situation de ce pauvre jeune fille violée, souvent maltraitée, c'est qu'il faut questionner, en fait, l'impunité dont bénéficient tous ces auteurs présumés de crimes extrêmement graves. Il y a un sentiment d'injustice extrêmement profond dans tout le pays. Il y a des viols, des crimes. Les gens n'ont jamais été rarement traduits devant les tribunaux tchadiens.
Excusez-moi, je viens encore une fois de rappeler que pour le cas de Zaora, il y a eu un procès en 2016 et que les auteurs avaient été jugés et condamnés quand même dans cette affaire.
Oui, mais c'est extrêmement rare. Et c'est pour cela qu'il faut justement questionner cette impunité dont bénéficient souvent les enfants des barons du régime. C'est cette question-là qui est extrêmement inquiétante et j'ose espérer que le nouveau ministre de la Justice mettra un peu d'ordre dans la maison.
D'accord. Madame Narmadi, on peut ne pas être d'accord sur la peine, mais n'empêche qu'il y a eu quand même un procès qui a eu lieu et à l'époque des faits, le président, défunt président Idriss Déby avait parlé d'un acte ignoble et avait fermement condamné ces abus.
Oui, M. Déby a rendu l'opinion. Il dit une chose et il fait le contraire en même temps. Nous qui sommes sur le terrain, c'est ce que nous vivons. La condamnation des violeurs de Zouhoura sont condamnés effectivement par la justice, mais ils n'ont pas purgé une peine. Ils n'ont pas purgé leur peine. Ils n'ont même pas mis 48 heures à la maison d'arrêt. Personne n'a
purgé sa peine. Où sont-ils aujourd'hui?
Ils sont dans la nature. Certains sont envoyés même à l'extérieur. Les parents les ont délocalisés de N'Djamena. Personne n'a purgé sa peine. Donc l'impunité, quand la culture de l'impunité par les hauts dignitaires tchadiens fait de la justice de son marchepied, les conséquences sont là. Et c'est les faibles, les vulnérables, qui sont toujours des victimes. Et on utilise comme arme de guerre, pourquoi? Je parle de l'arme de guerre, j'insiste et j'estime. Parce que pour désaxer un chef de parti politique, pour désaxer quelqu'un qui est engagé à la lutte, quelle que soit sa position, son bord, il peut venir violer ta femme, il peut venir violer ton enfant, il peut venir dans ta communauté faire quelque chose pour te désaxer.
Oui, c'est vrai. Donc, qu'on avait dit que le père de Zouhoura est le président d'un petit parti politique.
Oui, mais il a fini par se ranger. Il a fini par se ranger au moment où le bourreau de sa fille sont en débandade. Il a fini par se ranger. Donc,
en déclarant que sa fille n'avait pas été violée. Il s'était désolidarisé de sa fille.
Voilà. Donc, alors que tout le monde a vu, il a fallu la pression populaire pour que justice soit rendue, entre guillemets, à Zouhoura. Mais l'affaire de Zouhoura, c'est comme un bluff. On fait semblant simulacre de justice, condamnation, et puis on fait semblant de les envoyer à la maison d'arrêt. Ils sortent par l'autre porte pour prendre l'avion tranquillement, aller rester dans d'autres pays. Donc c'est ce qui perpétue le viol des fils, le viol sur les autres par les fils des dignitaires au Tchad.
Merci, là, Madame Narmadi. Dans un pays. Merci madame, on va revenir dans quelques petites secondes pour poursuivre notre débat sur ces pratiques au Tchad, le viol des jeunes filles par des dignitaires ou des fils des personnalités.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Des adolescentes violées par des enfants des dignitaires au Tchad. Nous en débattons ce soir dans le grand rendez-vous. Comment mettre fin à ces pratiques? Nous en parlons avec Madame Elotine Somti, militante associative ici à Paris. Mohamed Nezoum Zang, enseignant-chercheur, président de l'Amicale panafricaine, également dans la capitale française. Et en ligne de N'Djamena, Madame Céline Narmadi, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad. Et nous précisons que la représentante du ministère tchadien de la femme et de l'action sociale, Madame Zileka Mokhtar Diafoué, qui avait confirmé sa participation à cette émission, s'est finalement désistée à la dernière minute. Je vais revenir à vous, Madame Narmadi, pour terminer vos propos sur le fait que vous estimez que il y a une impunité qui continue. Dites-nous, quelle est vraiment l'ampleur depuis l'affaire Zora? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que les choses ont changé?
Si les choses ont changé, la petite de 15 ans ne sera pas violée. Elle ne sera pas violée. Et le jour où ces violeurs doivent comparaître devant les juridictions, ils sont venus avec une grosse cylindrée V8. Au palais de justice, ils sont venus comme bon le semble, parce qu'ils savent que à l'issue de leur présence, rien ne va se passer.
Mais ils ont été auditionnés, a indiqué le procureur, et ils sont toujours en détention.
Mais maintenant, à l'heure, nous parlons. Si quelqu'un peut descendre là où il parle de détention, il ne trouvera personne. Personne. C'est un simulacre de justice. Pour faire comprendre à l'opinion qu'ici au Tchad, on fait aussi la même chose et on le fait bien. Mais pratiquement sur le terrain, rien ne se fait. C'est un programme d'asservissement qui a été mis en place par le régime impasse et qui se perpétue de père en fils. Donc, il n'y a aucun changement. D'accord. Ils ne sont pas là à l'heure où nous parlons. Les bourreaux de la petite de 15 ans ne sont pas dans les geôles de la maison d'arrêt ou au commissariat. Ils sont chez eux, libres. Comment, dans leur communauté, ils savent que tout ce qu'ils feront ne sera pas puni? Ils vont s'abstenir comment? La loi est faite pour les faibles au Tchad.
Merci, Madame Narmadi.
Pour les dignitaires et les enfants.
Madame Somti, on espérait peut-être qu'il y aurait un après affaire Zora. Ça n'a pas été le cas, puisque Madame Narmadi le disait, on parle encore d'un autre cas de viol de jeunes filles par des enfants de haut gradé de l'armée. Comment expliquer que malgré le tollé que l'affaire Zora a suscité, on a le sentiment que rien n'a véritablement changé?
Rien n'a véritablement changé parce que quand vous vivez dans un pays de dictature où tout le pouvoir financier, politique, juridique, tout est détenu par une poignée de personnes, ils font leur loi sur toute une population. Au Tchad, aujourd'hui, sur les 16 millions de population, vous en avez 14 millions qui sont opprimés. Les deux autres millions font la loi parce qu'ils ont les moyens. Et là, depuis l'avènement du feu Déby au pouvoir, il y a vraiment pas de justice pour l'ensemble de la population tchadienne. C'est une justice deux poids, deux mesures. Alors, pour certains qui vont, j'exagère un peu, mais un enfant qui va aller voler un bonbon, on va le condamner à une dizaine d'années de prison parce que c'est l'enfant d'un pauvre et qu'il est rentré dans la boutique d'un commerçant et qu'il a volé un bonbon, donc on va le tabasser à mort. Et puis après, on va mettre une amende très importante que les parents pourront pas payer, on va le mettre en prison. Et puis, le fils d'un général qui va aller violer une mineure de 12 ans, 13 ans, on va faire un simulacre de procès en disant « oui, c'est un crime abominable, donc on ne va pas le laisser sans le punir ». Ils vont venir, soi-disant, pour être auditionnés, et puis après, ils vont disparaître dans la nature. Ils vont prendre leur vol, ils vont aller aux États-Unis, ils vont venir en France. Donc, c'est C'est vraiment une justice deux fois deux mesures.
Merci.
On ne juge pas le peuple, tout le peuple tchadien de la même façon. Et c'est grave, les problèmes de viol au Tchad et en Afrique d'une manière générale. Il faudrait qu'on puisse trouver des solutions. Il faudrait qu'on éduque la population.
D'accord. Vous nous direz tout à l'heure, dans la dernière partie, quelles sont les solutions, parce que c'est l'une des questions à laquelle nous allons répondre ce soir. Je propose qu'on écoute à nouveau M. Mohamed Nezoumzan. Il y a cette responsabilité que les deux dames de ce plateau attribuent notamment aux autorités. Mais il y a aussi, est-ce qu'on ne peut pas aussi remettre en cause, M. Nezoumzan, l'attitude des familles? Je parlais du cas de cette jeune fille, Zoura, dont le père a clairement dit et de façon officielle que sa fille n'a pas été violée. Et finalement, l'enfant a été envoyé ici en France aux grandes dames de ses avocats qui disent en avoir été informés par les réseaux sociaux et qui se sont retrouvés au tribunal sans la famille, sans l'accusé, sans, tout seul. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on pointe du doigt ce manque de détermination de la part des familles des victimes ou des victimes d'aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire?
D'abord, une remarque. La première, c'est que le père de la petite Zoura a fait l'objet de très très grandes menaces et intimidations. D'abord, il s'est retiré de la course à la présidentielle à l'époque. Mais d'une manière globale, et si on veut analyser de manière exhaustive la situation de la justice tchadienne, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sentent intouchables, qui bénéficient d'une impunité totale, qui sont protégées par les barons du régime, et les familles jouent également leur partition dans cette macabre séquence.
On accuse parfois aussi certaines familles de marchander oui. l'affaire et d'accepter des arrangements au détriment de la justice et de la vérité.
Mais bien sûr, le régime de M. Déby père a instauré un climat de terreur qui fait que les gens, avant de rendre la justice, demandent l'avis des personnes puissantes. Et c'est comme ça que la justice est rarement, très rarement rendue.
D'accord. Madame Narmadi?
Oui.
Est-ce que, d'après vous, la loi est suffisamment, je veux dire, la loi sur le viol des mineurs est suffisamment répressive au Tchad pour dissuader d'éventuels auteurs de viol?
La loi, le moment où on a l'article à Marseille. Le problème est que aucun texte ne fonctionne au Tchad. Même la Constitution est foulée au pied par Déby lui-même. Aucun article de la Constitution, du préambule jusqu'au dernier, n'a été appliqué jusqu'à
présent. Monsieur Déby n'est plus là, Madame Narmadi. Il est décédé,
donc,
il n'est plus là.
Les textes, on peut avoir de beaux textes, mais quand il n'y a pas la volonté politique de la mise en œuvre de ces textes-là, ça sera comme des brouillons qu'il faut froisser tout de suite et mettre à la poubelle. Donc, l'inapplication des textes dans ce pays pose problème. Les gens jugent autrui par rapport à ta position sociale. Donc, le texte ne fonctionne pas au Tchad. Sinon, le texte actuellement, la loi sur la protection de la petite enfance au Tchad, si on appliquait seulement un seul article, on ne parlera pas du viol. Et si on éduquait la population pour dire que les Tchadiens sont égaux, le gouvernement se met dans une grande campagne pour dire que les Tchadiens sont égaux, je protège personne. Tous, si vous commettez des actes, vous allez répondre de vos actes devant les juridictions. Qu'on nous mette sur les mêmes pieds d'égalité et qu'il nous prouve dans sa manière de faire que nous sommes égaux, ce phénomène s'arrêtera d'elle-même. Mais depuis que M. Déby a pris le pouvoir en 90, il a biaisé tout le fondement du Tchad là est écroulé.
Merci, madame. Je rappelle une fois de plus, M. Déby est décédé. Madame Narmadji, donc, ce sont les nouvelles autorités qui sont bien en place. Madame Somti, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités vont sérieusement prendre cette question en charge et qu'on n'assisterait plus à de telles situations, puisqu'en son temps, le président Déby lui-même, pour l'affaire Zora en tout cas, avait fermement condamné et avait déclaré que justice sera rendue et que plus jamais cela ne se répétera. Est-ce qu'on peut l'espérer aujourd'hui avec les nouvelles autorités?
Eh bien, écoutez, là, avec le Conseil militaire de transition, je dirais non. Non, parce que c'est un gouvernement qui ne fait qu'assurer la continuité et qui ne fera que pérenniser le règne du feu Déby. Il n'y a pas de changement. La preuve est vue, et d'ailleurs, ils ont même fait pire déjà que le feu Déby, c'est que quand les jeunes n'étaient pas contents, ils sont sortis pour manifester, on a tiré à balles réelles sur les jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, le nombre des personnes décédées, il me semble que le plus âgé doit avoir dans les 28 ans parmi les manifestants. Et c'est que des jeunes de 18 ans, 17 ans. C'est juste pour montrer. Et aussi pour montrer un peu l'exagération des choses au niveau du Tchad. Prenez ne serait-ce que le cas de l'opposant Yahya Dilo, juste pour qu'on le ramène avec une injonction. Ce sont des chars qui sont venus défoncer sa porte. C'est juste pour vous dire que les choses prennent toujours des ampleurs et des exagérations pas possibles du tout au Tchad. Par conséquent, le gouvernement qui est actuellement en place ne fera rien du tout, puisque de toute façon, là, ils sont plus dans la répression. Ils ne veulent pas que les gens parlent. Ils ne veulent pas que les gens manifestent pacifiquement pour dire qu'ils ne sont pas contents et qu'ils aimeraient que les choses changent. Si vous regardez un peu la situation géopolitique du Tchad, le Tchad est l'un des pays les plus pauvres. C'est l'un des pays les plus pauvres. Si vous prenez les 10 années que le président Hissène Habré a fait au pouvoir, vous rajoutez les 30 années du feu Déby, ça fait 40 ans. Et 40 ans, le Tchad a fait un bond 40 ans en arrière. Les autres pays se développent et ils vont en avant. Mais au Tchad, c'est l'inverse.
Merci. Merci, Madame Somti. Je vous invite à marquer une courte pause. On se retrouvera pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Jeune fille mineure violée par des fils de pente de régime au Tchad, comment mettre fin à de tels actes? Nous en débattons ce soir dans le grand rendez-vous avec Elotine Somti, militante associative ici en France, Madame Céline Narmadji, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix à N'Djamena, et Mohamed Nezoumzan, enseignant-chercheur et président de l'Amicale panafricaine ici à Paris. Je vous donne la parole, M. Nezoumzan. On a écouté Mesdames Narmadji et Somti qui sont tout à fait pessimistes quant à une réelle volonté des nouvelles autorités de lutter contre cette pratique. Finalement, par quel bout faut-il mener le combat aujourd'hui pour espérer le gagner?
Il faut d'abord une refonte totale du fonctionnement de la justice au Tchad. Il faut placer les personnes compétentes au poste qu'elles doivent occuper. Et il faut également revoir tout l'univers carcéral tchadien également. En fait, il y a énormément de questions à résoudre. Et j'ose espérer, je n'en ai pas l'intime conviction, mais j'ose espérer que le nouveau ministre de la Justice, comme il s'y était engagé, pourrait...
Qui est d'ailleurs issu de l'opposition.
Oui, tout à fait. Il pourrait peut-être commencer par remettre un petit peu d'ordre pour qu'il y ait... pour que les Italiens sentent qu'il y a réellement une justice. Mais au vu de ce qui se passe, il y a peu de raisons d'être entièrement optimiste.
Pourquoi vous le dites, monsieur Nezoumzan? Est-ce que vous ne pensez pas que le nouveau ministre, monsieur Alabo, qui vient de l'opposition, je le disais, peut peut-être faire des efforts pour obtenir de la part des autorités judiciaires et politiques une véritable adhésion pour combattre ces pratiques?
On espère qu'il a la volonté. Est-ce qu'il aura les moyens à la fois matériels et humains pour mener à bien cette gigantesque tâche? Ça, on le verra, parce que il avait fait déjà une déclaration récemment et il a été presque immédiatement recadré par un simple secrétaire général d'un ministère. Donc vous voyez,
il n'a aucune marge de manœuvre selon vous.
Il va essayer de les avoir, je suppose, espérer pour lui, et qu'il tentera, mais le système tel qu'il fonctionne là ne donne pas beaucoup d'espoir à la population tchadienne. Il n'y a pas seulement les viols, il y a énormément de crimes qui ont été commis, et les auteurs présumés ou réels courent toujours, ils sont toujours dans la nature. Donc il y a un vrai problème d'impunité, d'injustice.
Merci, Monsieur Nezoumzan. Alors, Madame Narmadi, quel est votre plaidoyer aujourd'hui? Comment le menez-vous pour que, enfin, on n'assiste plus à ces types de viols de mineurs par des proches des personnalités du pouvoir?
Bon, notre plaidoyer va à l'endroit de la gente qu'on ne reconnaît pas. De d'abord passer la main pour qu'on passe aux choses sérieuses. Parce que là où nous sommes là, on est comme si on est... Il n'y a rien. Le Tchad est néant. Pour nous, les Tchadiens qui sommes sur le terrain ici, on n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que ça nous retarde énormément encore. Au lieu de 30 ans, 31 ans, on risque d'aller à 32 ans de souffrance. Donc il faut qu'ils passent la main pour nous permettre de nous asseoir et continuer à revoir là où on a omis, on a péché, là où on n'a pas touché, de recadrer ce pays-là, parce que toutes les pendules doivent se remettre à zéro.
Il y a rien. Donc à vous pensez que le véritable combat contre les viols de mineurs par des proches du pouvoir passe d'abord par une instauration d'une réelle démocratie?
D'une réelle démocratie. D'une réelle démocratie du peuple, tel que c'est parti, on ira de mal en pire. Parce que rien n'est salutaire d'ici demain. Donc, s'il n'y a pas l'instauration d'une réelle démocratie et que le peuple a voix au chapitre pour décider de sa destinée, rien ne va marcher. Les viols iront de plus belle, les assassinats, la destruction des champs, il y a beaucoup de problèmes. Donc tant que la gente là sera là, maintenant plus d'un mois qu'ils sont là, c'est que des dégâts.
Merci.
C'est que des dégâts. Donc que la communauté internationale nous aide à nous débarrasser de cette gente là, on n'en a pas besoin.
Merci Madame Narmadi. Madame Somti, oui, Madame Narmadi dit qu'il faut une réelle démocratie pour que on espère voir les choses changer. Mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort ou un travail de sensibilisation à faire des garçons pour qu'ils changent leur regard, leur perception sur les jeunes filles ou des relations avec les jeunes filles?
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, aussi bien à l'égard des jeunes filles, des mamans, qu'à l'égard des jeunes hommes et aussi de ces messieurs. Parce que, comme je disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, l'acte sexuel, ça doit nécessiter le consentement des deux parties, bon, quel que soit l'âge, je dirais. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est une réelle justice, c'est-à-dire que quand ce mineur de 15 ans se fait violer par le fils d'un dignitaire, il faudrait vraiment juger le fils en question, le mettre en prison et qu'il purge sa peine réellement. Et il faudrait que ça puisse être une peine de prison dissuadable. C'est-à-dire que si on lui met 20 ans, 30 ans et qu'il purge réellement sa peine, je pense que ça pourrait faire réfléchir à deux fois les autres jeunes qui commettront ce genre d'actes abominables. Mais sinon, effectivement, il y a un travail de sensibilisation et il faut absolument que les jeunes filles dénoncent les actes de viol. Il faut que les parents soutiennent les filles qui sont dans cette souffrance physique et psychologique, parce que ce que les gens oublient, c'est que la jeune fille ou la jeune femme qui s'était violée est vraiment dans une souffrance physique et psychologique.
Et qu'il y a des séquelles.
Et généralement, l'environnement social, malheureusement en Afrique, l'environnement social, c'est que les gens banalisent souvent les actes de viol et souvent, les gens condamnent plutôt la victime en disant c'est parce que la jeune fille avait une tenue provocante ou la jeune fille a fait quelque chose. Mais non, ça n'a rien à voir avec la jeune fille. C'est plutôt, donc il faudrait déjà qu'il y ait une éducation aussi, une vraie éducation et une sensibilisation faite à l'égard des jeunes hommes. Parce que s'ils sont éduqués et qu'ils comprennent et qu'ils sont sensibles que si la fille dit non, c'est non. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas violé des femmes ni des filles.
Merci beaucoup. Sensibiliser pour éviter la banalisation peut-être du viol. Madame Narmadi, vraiment en 30 secondes, comment prenez-vous en charge les victimes aujourd'hui? Que deviennent-elles?
Les victimes, quand ils arrivent au sein de nos organisations, nous les prenons d'abord le plan sanitaire, on les prend en charge à 100%, soit l'appui de ces ministères qui a dévissé tout à l'heure. L'aspect sanitaire, l'aspect social aussi, parce que parfois, les parents sont dépourvus et ils ne peuvent rien faire face à ce cas-là. Donc, on les encourage avec des conseils pour qu'elles puissent tenir bon. Elles ne sont pas la dernière, elles ne sont pas la première, elles ne seront pas la dernière, avec des conseils. Et comme nous n'avons pas de psychologues pour les accompagner, on fait avec les moyens de bord et on les suit pour qu'ils reprennent la vie normale, parce que ça peut arriver à tout un chacun dans un pays comme la nôtre. C'est pas une facilité pour elles.
D'accord. Pour qu'elles avancent. Vous les aidez à avancer et à tourner la page de ce qu'elles ont vécu. Merci beaucoup Céline Narmadi, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad, d'avoir participé à l'émission. Vous étiez en ligne de N'Djamena. Merci à vous Elotine Somti, militante associative, défenseuse des droits des femmes, de la démocratie, de la liberté d'expression et de la justice ici à Paris. Et merci également à vous Monsieur Mohamed Nezoum Zang, enseignant-chercheur et président de l'Amicale panafricaine, également ici à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.